La plage. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place.
Bonjour à tous et merci d'être ici pour cette conférence sur la place du R&B dans le hip-hop en France. Un grand merci à la L2P Convention. C'est la troisième édition cette année et c'est super cool de voir autant de monde qui est ici pour ce domaine d'ailleurs et pour venir nous soutenir ici. Et donc on va amener l'histoire du R&B, que ce soit aux États-Unis ou en France, toutes les problématiques, ce qu'on peut définir en tant que R&B, néo-soul. Donc voilà, donc dans un premier temps, je vais laisser les intervenants ici se présenter, expliquer un peu leur parcours. Et let's go, ce qui veut commencer. Oscar. Yes.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Oscar Hemsch. Je suis chanteur, auteur, compositeur. Donc je chante en français, je crée mes chansons en français, mais du coup dans un style plutôt R&B, soul. Voilà. Et après je produis aussi de la musique pour d'autres artistes qui font un peu le même genre de musique que moi. Donc je travaille avec Enchanté Julia beaucoup, je travaille avec Luigi, avec Turi, je travaille avec plusieurs artistes qui sont un peu dans cette vague là. Et voilà, je suis très content d'être là, merci.
Merci Oscar. Théo.
Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Théo, je suis directeur artistique dans le label Electra chez Warner Music depuis 4 ans. À la base, je viens du live, il y a 10 ans, j'étais beaucoup régisseur de salle à Paris, puis j'ai pu permuter aller plus en digital chez Warner jusqu'à permuter il y a 4 ans en tant que directeur artistique du coup dans le label Electra. Je gère 3 registres, donc le rap au sens large, après je fais aussi de l'électro et je fais aussi tout ce qu'on va dire un peu nouvelle pop et variété française. Donc j'ai des artistes comme Kaza, j'ai fait 13 blogs, j'ai fait en ce moment je fais Offenbach en électro et en pop. J'ai une artiste qui est présente d'ailleurs qui s'appelle Nae, avec laquelle je travaille beaucoup et qui est beaucoup plus axée pour cette conférence. Et voilà, donc je suis ravi de tous vous voir.
Merci Théo. On passe à toi Ella.
Salut, moi c'est Ella, je suis chanteuse, autrice, compositrice, etc. Ça fait 10 piges à peu près que je fais de la musique et j'ai un projet en français que j'ai du mal à définir, qui est plus axé pop, mais je suis très fan de R&B et je suis une puriste dans ça et tout, donc il y a beaucoup d'inspiration dans ce sens là aussi, beaucoup New Jack ou les trucs un peu plus londoniens. Et voilà, je crois que c'est tout.
Trop cool, merci Ella. A2.
Salut à tous, moi c'est A2H. Des gens me connaissent en tant que rappeur, chanteur, auteur, compositeur. J'ai monté un label dans lequel je développe différents types de musique à côté de ma carrière perso, où il y a pas mal de R&B. On a signé 2-3 artistes qui sont dans cette veine-là, dont un qui est 100% R&B. Et du coup, c'est un peu dans la position de producteur que je suis là aujourd'hui. Mais même si en tant que beatmaker, on a produit du R&B, j'ai des beatmakers sur mon label qui ont fait Monsieur Nov, on a fait Zao, on a fait plein de trucs. Donc du coup, on va essayer de faire tout ce petit parcours ensemble. Merci.
Et donc pour finir, moi, je m'appelle Nassim Taouzineh. J'ai fondé une agence de RP, agence de communication, qui s'appelle 93 Public Relations. Et j'ai démarré avant tout en tant que fan dans le R&B néo-soul, grâce à ma grande sœur qui était une chanteuse qui aurait pu faire carrière, mais c'était une époque un peu compliquée en France. Donc je salue ma grande sœur Farah si un jour elle écoute ce podcast, ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et entre autres, j'ai été DA en Angleterre, à Londres, pour une agence de presse qui s'appelle Liberty Music en 2019. Et à cette époque, on a eu beaucoup d'artistes qui ont émergé, comme Georgia Smith, Mahalia, toute la nouvelle scène néo-soul, dont Jazz Caris, avec qui j'ai pu collaborer. Et donc maintenant, en France, depuis 3 ans, j'ai travaillé avec une artiste en management qui s'appelle Olivia Orson, qui est aussi une très belle artiste néo-soul, R&B. Et donc maintenant, on est là pour développer ce genre et faire en sorte que ça existe et qu'il y a un réel business autour de ça. et surtout détabouiser, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'est le R&B. Et aujourd'hui, on va essayer d'apporter les réponses à toutes ces questions. Donc, je vais poser une question à mes intervenants. Pour vous, si vous avez une définition à apporter sur le R&B, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Genre déjà, le premier truc, c'est que c'est une musique afro-américaine dans laquelle on peut entendre des influences harmoniques du jazz, souvent. Donc, c'est-à-dire une certaine complexité harmonique, ce dont on parlait tout à l'heure, qui le distingue souvent de courants plus pop, même si c'est pas... Enfin, on peut avoir les deux, hein, mais voilà. En tout cas, moi, c'est le premier truc qui fait le catégoriser dans ça, tu vois.
Cool.
Ouais, pour compléter, moi je suis assez d'accord avec Oscar, on en parlait tout à l'heure en off, qu'il y avait pour moi dans le R&B un souci d'enrichissement, d'harmonie, de complexité d'accords, que ce soit, tu vois, des accords qui viennent un peu du jazz, des accords de 7e, de 9e, de 13e, qui pour moi sont un peu l'essence d'un chord progression qui serait plus R&B, contrairement à la pop qui vont être sur des accords moins enrichis. Mais c'est ma vision un peu du truc, je dis pas que j'ai forcément raison. C'est plus une histoire de sonorité, des choses qui viennent du jazz, du gospel, de la soul, en termes de suite d'accords, en fait, de chord progression.
Ok, trop cool. D'ailleurs, est-ce que dans la salle, il y a des beatmakers ? Si vous pouvez lever votre main. Ok. Des managers d'artistes ? Ok, trop cool. Des artistes ? Et d'autres gens de l'industrie ? RP ? Ok, trop cool. Et juste des fans de R&B. Ça fait kiffer. Non, c'était... Ouais, c'est... Non, c'était surtout pour savoir qui venait de comprendre ce que vient de dire A2, parce que c'était quand même extrêmement technique. Et vous, est-ce que vous avez une petite vision, alors une petite définition, Ella ou Théo, sur le R&B ?
C'est un registre qui est quand même assez large et que ça fait pas mal de temps en fait que ça existe. Après, est-ce que il n'y a pas une réelle différence entre le R&B qu'on entend et qu'on entend vraiment dans les sonorités américaines et aujourd'hui en France, qui est un peu plus catégorisé et qui est un peu plus formaté ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de liberté aujourd'hui aux États-Unis sur ce style-là ? Je pense. Et aujourd'hui, c'est un peu en train de changer, mais c'est quand même très lent. Mais il y a quand même un engouement aujourd'hui sur certains artistes français qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc je pense que non, il y a quelque chose dans le R&B en France, mais c'est à déterminer et c'est à prouver. Et il y a quelque chose qu'il faut faire bouger les choses. Et cette conférence l'est. Mais ouais, non, en tout cas, moi je trouve que c'est un registre qui. C'est normal que ça existe, il faut que ça existe, mais il faut un peu plus l'identifier et c'est en train d'être fait. Donc c'est très cool.
Trop cool.
Okay. Ouais, je pense à un truc aussi, genre le fait qu'il y ait des thèmes aussi récurrents qui permettent un peu quand même de placer cette musique, même si ça ne l'essentialise pas. Mais c'est vrai que c'est souvent quand même axé sur le sexe, l'amour, sur... ouais, en gros, genre ce genre d'émotions, tu vois, genre ce panel d'émotions. Après, genre, comme je dis, genre, je ne pense pas que ça doit l'essentialiser, parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir amener justement une musique ailleurs via l'écriture, etc., et genre pouvoir parler de tout ce qu'on veut. Mais force est de constater que quand tu écoutes, je sais pas quoi, D'Angelo par exemple, ça parle beaucoup de sexe, quoi. Voilà.
Oui, clairement.
Et je pense que c'est ce qui pêche en France. C'est que c'est un pays qui est très, très puritain, très prude. Et il y a un truc où ça bloque peut-être, tu vois. Je me dis peut-être qu'il y a un truc comme ça qui empêche. C'est moins dans la culture, de toute façon, en France, le R&B, c'est moins le truc des Français de base, j'ai l'impression. Parce que nous, on est à Paris, donc ça existe et tout. Mais tu vas en province, il y a un truc où les gens sont moins dans ce truc-là, tu vois. Donc je pense qu'il y a un problème de base de où on est ici aujourd'hui en France, tu vois. C'est pas la culture de base, j'ai l'impression.
Genre tu veux dire de s'autoriser aussi de parler de certaines choses de manière crue par exemple.
Ouais. Tous les éléments que vous avez dit constituent ce qu'est le R&B. On va apporter une définition un peu plus scolaire, un peu plus universitaire. Je vais reprendre une citation qui est assez cool et je vais la faire en anglais, parce qu'elle est originellement en anglais, donc c'est « The term rhythm and blues, often called R&B, originated in the 40s, when it replaced race music as a general marketing term for all African-American music. Donc en français, donc le terme rhythm and blues, souvent maintenant appelé R&B, il est apparu dans les années 40, et il a remplacé le terme race music. Donc le R&B est intrinsèquement lié à la culture afro-américaine et à la musique des Afro-Américains dès 1940. Donc c'est pas quelque chose de moderne. Et donc pour replacer ça, on va faire un léger entre guillemets cours d'histoire. On va aller rapidement là-dedans parce que c'est important de remettre les bases et c'est important de dire les termes. Donc on va se baser vraiment sur les États-Unis. Et donc la première ère du R&B était entre 1940 et 1950. Le rhythm and blues, on va rester sur cette appellation, c'était pour identifier le rock à cette époque avec le boogie-woogie, le twist. Et donc c'était le terme générique. Et ce terme de R&B, en tout cas rhythm and blues, ça a été la première fois a été énoncé pour le Billboard. Donc c'est réellement un terme marketing par un mec qui s'appelle Jerry Wexler, qui était producteur de musique. Dans cette première décennie, c'était vraiment lié aux backbeats et à cette nouvelle forme de rock afro-américaine. Pour ensuite arriver dans les années 50-60. Avec l'apparition de la Nouvelle-Orléans, qui s'est mise sur la carte en tant que terre du blues. Donc on shift, donc on passe du rock, twist, boogie-woogie, vers le blues. Et à ce moment-là, donc dans les années 60, le rhythm and blues, c'était du blues. Et on passe, avec bien sûr aussi des influences jazz, qui nous amènent à la décennie d'après, donc années 70 et années 80, qui ressemble un peu plus à ce qu'on a maintenant, avec l'apparition de James Brown, qui était une des icônes, en tout cas, du milieu du rhythm and blues, où on avait des patterns qui étaient beaucoup plus proches du funk, pas de la funk, on va faire une différence, mais le funk, qui est un peu plus original en termes de timing. Donc c'était vraiment un terme général, c'était soul, funk, dans cette décennie. Pour arriver ensuite aux années 80, et un artiste en particulier a apporté une réponse à ce que vient de dire Oscar, c'était Prince. Et Prince a été le premier artiste à ramener une dimension sulfureuse qui ne se faisait pas avant. Et de là, ça a influencé totalement le genre du R&B. Et le terme R&B d'ailleurs arrive dans les années 80, donc en contraction. Et là, donc dans cette décennie, donc James Brown, Prince ont pris des parties musicales du rock un peu psychédélique pour la mettre dedans, jusqu'à 1900 à peu près 87 avec l'arrivée du hip-hop. Et là, on a le R&B moderne, qui était d'ailleurs désigné à la radio comme urban pop, pop urbaine, un terme qu'on a beaucoup entendu en France ces dernières années, mais qui était déjà utilisé aux États-Unis dans les années milieu d'années 80, ou contemporary R&B, qui était aussi des termes marketing. Et il y a eu l'apparition d'un producteur que peut-être vous connaissez, il s'appelait Teddy Riley, qui a produit pour Michael Jackson, qui a produit un gros hit qui s'appelle Poison. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose qui est arrivé dans les années 2000 de Black Street. Il a fait aussi pas mal de bangers et il a influencé la plupart des gros beatmakers que vous connaissez. C'est un peu le mentor de Dr. Dre, de Timbaland avant l'heure. à deux, toi.
Des notes.
Trop cool.
À deux, rentabilise le carnet de la place.
Je crois qu'à deux, toi, tu es familier avec le travail de Riley.
Ouais, j'adore, mais après, il y en a plein d'autres en vrai. Ouais. Il y avait les New Edition et plein d'autres groupes de ce style-là qui ont ramené un espèce de R&B 70s jusqu'à un truc New Jack qui après se transforme en quelque chose de plus ce qu'on connaît aujourd'hui, d'un R&B plus proche de ce que les Usher et tout vont ramener après. Je pense que c'est dans ta chronologie ensuite. Mais après, il y a aussi... tous les Quincy, les Baby, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de producteurs de cette époque qui ramènent leur vibe et qui créent le R&B qu'on connaît aujourd'hui. Quoi. Mais c'est plein de courants différents. Teddy, c'en est un parmi d'autres. Quoi.
Ouais, bah, tu m'as fait une parfaite passe et une parfaite transition pour les années 90. Et là, je pense que sur les gens que je vois dans le public, je pense que vous avez plus ou moins connu, pas tant que ça, à part ADH qui est ici, qui a connu les années 70.
Je suis Duncan MacLeod.
Donc dans les années 90, on a eu l'arrivée de groupes ultra célèbres comme les TLC, par exemple, ou les Boyz II Men, ou Jodeci. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Boyz II Men, Jodeci. Ah, trop cool. Et donc là, on a eu l'arrivée en fait et l'émergence de beaucoup de groupes qui ont fait exploser le mouvement en termes de vente aux États-Unis. Et ça, c'est très important. C'est devenu vraiment un move qui est populaire. Et donc, dans les années 2000, on a la plus grande séparation qui va faire qu'aujourd'hui, on parle de R&B avec deux courants qui se sont créés, qui sont la Neo Soul, héritage des Nina Simone, Aretha Franklin, avec des artistes comme Music Soul Child, si vous connaissez. Oh, on a des beaux fans ici. Trop cool. D'Angelo. Tu vois, ça me dit, ouais. R. Kelly, Brian McKnight. Donc, eux étaient vraiment du.
On va avoir un col roulé.
Ouais, ça ouais, c'est exactement ça. Ou Joe. Et là, on va revenir dans l'hypersexualisation dont Oscar parlait. Et c'est quelque chose qu'on est obligé d'aborder. C'est qu'à cette époque, on a utilisé le corps des noirs, le corps noir comme objet sexuel avec les Boyz II Men par exemple qui étaient très souvent torse nu dans leurs clips ou Joe et tous ces artistes là et donc ça a créé un certain mouvement qui après dans les années 2000 a continué et a shifté vers un R&B plus rythmé, donc Justin Timberlake, Usher, Beyoncé. Et à cette époque-là, donc on avait vraiment le côté soulful et le côté plus rythmé, plus rapide, qui englobe de manière générale le R&B. Et on arrivait même à un point où on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que lui fait du R&B, est-ce que lui c'est du rap? Au final, la seule différence, c'est les rythmes qu'on met et la vitesse à laquelle on parle. Mais sinon, il n'y avait aucune différence. Donc cette époque-là était aussi marquée par un autre truc, qui sont les featuring. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons qui sont devenus des hymnes. On pense à Nelly, Kelly Rowland avec le morceau Dilemma. Et ça, c'est l'arrivée en fait, des femmes dans le R&B, qui était souvent utilisé en tant que refrain. Ouais. Quelqu'un l'a dit, c'est toi, Naé, tu m'as eu avant moi. Et ouais, donc on a eu beaucoup de refrains féminins à cette époque-là pour faire avancer le rap et en tout cas changer le mouvement. Et après, on va pas forcément développer pour les années 2010 et 2020 parce que je pense que ça n'a pas énormément changé et vous connaissez aussi, aussi tout ce qui se passe avec la nouvelle vague de Giveon qui s'inscrivent là-dedans. D'un autre côté, des artistes qui sont un peu plus pop, comme Dua Lipa, Ariana Grande, sont des héritiers ou des héritières de Justin Timberlake et Usher. Et là, on va s'intéresser à la France, parce qu'on est quand même à Paris aujourd'hui ici. Et on va construire un peu et rappeler l'histoire du R&B en France, et ça va ramener des souvenirs à beaucoup de personnes ici, je pense. Quels ont été pour vous les premiers souvenirs du R&B? Premières mémoires et premiers artistes? Comment vous avez été touché par ce genre?
Ophélie Winter, je pense, ouais. Le clip avec les vitres, là, les glaces, là. Elle a envoyé un truc, tu vois. Mais déjà à l'époque, parce que j'ai des tantines et tout, il y avait déjà ce truc de, c'est qui la Babtou là qui prend notre bail, tu vois ce que je veux dire. Il y avait cette problématique était déjà sur la table, tu vois ce que je veux dire, à cette époque-là. Mais moi, j'ai le souvenir que c'était ma première claque d'un truc groove en français. Qui envoie quand même, c'était bien produit, c'était déjà bien produit de ouf, comparé à des trucs un peu cheap qu'il y avait dans des trucs qui avaient peut-être moins de budget et tout. Peut-être qu'elle représentait, que ce soit en tant que femme blanche dans l'industrie, quelque chose sur lequel on pouvait mettre beaucoup d'oseille sur la table. Donc elle a peut-être eu des gros moyens que certaines artistes noires n'auraient pas eu. Mais pour moi, c'est mon premier souvenir de trucs bien produits, gros produits français.
Ok, trop cool. D'ailleurs, pour rappeler, Ophélie Winter, c'est 1994. Son premier album, en tout cas, qui cartonne un peu plus tard, dans 96, avec l'émission Dance Machine, pour ceux qui ont, ouais, quelques personnes qui ont connu ça, les 90s. Et elle avait fait avec un méga tube, dont vous vous rappelez peut-être, qui s'appelait Dieu m'a donné la foi. Ouais. qui était numéro 1 du top 50 d'ailleurs. Vous avez d'autres souvenirs, vous, à peu près, ou en tout cas, quand est-ce que ça vous a touché, parce qu'on n'a pas tous le même âge ici.
Ouais, moi je dirais que c'était Matt Pokora. Mais en vrai, genre ça m'a pas non plus marqué, genre j'ai trop kiffé. C'est juste que c'était les trucs qu'écoutait ma sœur et genre écoutait Willy Denze et tout ça.
D'accord, ouais, donc 10 ans plus tard.
Voilà. Mais bon, après, ouais, c'est pas un truc qui... Enfin, tu vois, genre je me suis pas senti proche de cette musique directe, c'était juste que c'était la musique qui passait à la radio quand j'étais jeune, c'était la période de Star Academy et tout ça, tu vois.
Ouais.
Voilà.
Ok, trop bien.
Poetic Lover ? Je sais pas si c'est...
Ouais, Poetic Lover, ouais. C'est juste un peu avant Ophélie Winter. C'est à quoi le souvenir de... T'as un souvenir particulier de Poetic Lover ? Ou est-ce que t'avais
ça vu voulait ça trop... Enfin, ils voulaient trop être les Boyz II Men, je crois. Et du coup, ouais, je me souviens de la pochette et tout. Ils avaient fait un feat avec Carole Fredericks aussi. Enfin, ouais, c'était quand même... vocalement, c'était... Mais du coup, tu fais le transfert et en français, du coup, les textes, on se les prenait, on comprenait ce que ça voulait dire. Et du coup, c'était un peu chum, je crois. Mais ouais, c'était du R&B, je crois. Ouais.
Oui, totalement, totalement. Tout ce qu'on a cité, toi, t'as un petit souvenir à cette époque-là ou
Un peu pareil avec ma grande sœur qui écoutait ça. Après, c'était beaucoup, je sais pas, je dirais un artiste qui m'a vraiment marqué, c'était peut-être Singila, ouais, à l'époque, qui m'avait vraiment, lui, marqué. Après, il y en a eu plein.
Wallen
aussi. On va y venir.
On va y venir. Mais ouais, non, moi, je dirais, ouais, dans ce là moi, très, j'ai vraiment matché avec ce registre vraiment au début des années 2000, pour le coup. Ah bon, okay. C'était pas ma génération.
Et sur la transposition genre direct Quinry en français, il y a ce refrain de, je crois que c'est Jimmy Sissoko sur le morceau de 113.
Jackpot 2000.
Ou ouais. Là, genre quand je l'ai écouté, je me suis dit, oh, on dirait trop qu'il a pris des sons, enfin tu sais genre des mots anglais, et ça transforme vite fait pour que ça ait l'air français. Parce que tu vois, il y avait ce truc des diphtongues et tout.
Enfin, il y avait ce truc de copier les Américains.
Ouais.
Tu sentais qu'il y avait ce truc de... Fallait... Ouais. Karine aussi. Karine,
ouais. Et ben, c'est une... en fait que des super transitions parce que la première génération, on va dire, d'artistes francophones ou même français à ce moment-là, donc sont dans les années 90. On a parlé de... Il y avait Native en 93, Poetic Lover en 94, Ophélie Winter 96. Il y avait une aussi Mel Groove, je ne sais pas si vous avez connu. C'était un peu plus low-key. Et un peu plus tard, donc vraiment fin des années 90, début 2000, mais vraiment 98-99, il y avait Larousso.
Ah, Larousso.
Ouais, c'est cool, ça ramène des... si on avait un peu plus de temps après ça, on aurait fait un quiz musical. Parce que c'est vraiment le hit. C'est considéré en fait comme R&B et on a quelque chose de super intéressant qu'a dit Ella, c'est la transposition avec les Américains que tu as souligné aussi Oscar. Poetic Lover, comme tu dis, c'est les Boyz II Men à la française et à cette époque-là, je disais, donc il y avait des groupes qui se créaient, c'est ce qui s'est passé et donc on n'avait pas encore beaucoup d'artistes féminines à part Ophélie Winter qui avait une grosse machine derrière, donc signée en major, qui a permis d'avoir des gros budgets publicitaires liés à M6 et qui l'a fait connaître. Et derrière, on va arriver à une époque, moi j'apprécie particulièrement, qui sont les débuts des années 2000. Et avec un R&B qui va s'affilier plus à la partie rythmée et on va rester dans le calque des Américains avec les featuring. Et là, on a alors une flopée d'artistes qui sont plus talentueuses les unes que les autres, avec l'air de nouvelles artistes féminines. Et Wallen, Karine, Asia, Kaina Samet, toute Leslie plus tard aussi, entre 2000 et 2005. Et à ce moment-là, j'avais une discussion avec Ali, qui est un pote en commun avec A2H, qui aime particulièrement cette époque et qui m'avait un jour souligné le fait que en featuring ça fonctionnait, que tout le monde ici connaît, mais est-ce que vous avez écouté leur album, est-ce que vous avez acheté leur album? Et c'était ça la problématique à cette époque-là et c'est peut-être ce qui a contribué au fait que derrière ça s'est pas forcément développé plus tard, mais on a eu cette réelle problématique entre les featuring versus qui écoute les albums, parce que là je suis sûr que dans cette salle vous pouvez me citer, allez on va essayer là tout de suite, on va faire une petite interaction avec vous, est-ce que vous avez un featuring de Wallen avec un artiste, avec un rappeur? Ouais, avec Lino, Arsenic, trop cool. Un autre featuring qui est l'exemple, ouais, de Rof, une personne là-haut. Avec Shuriken, ouais, trop cool. Karine, est-ce que quelqu'un a un featuring? La BO de Taxi, ouais, exactement. Kaina Samet. Avec Booba, voilà, on a que des bangers à ce moment-là. Et je vais reposer une petite question. Tout à l'heure, on abordera les questions en direct, mais là, c'est cool pour le panel et ça permet de voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez écouté les projets de ces artistes en solo? Wallen et Leslie. Et une petite question générale, est-ce que vous pouvez lever la main si vous venez de banlieue? Ouais, donc on a quand même une majorité de personnes en fait qui ont écouté ces morceaux et qui viennent de banlieue. Ce qui fait qu'à cette époque, pourquoi je pose cette question, c'est que le succès de ces artistes et la résonance étaient aussi liés aux rappeurs. Ce qui veut dire qu'elle était liée à une catégorie socioculturelle de personnes. Et vous avez suivi, mais ce qui fait qu'elles n'ont pas eu cette dimension mainstream. Elles ont été soutenues par les premiers fans des rappeurs, mais pas directement par les canaux classiques de la télé, de la radio, hormis sur les featuring. Et il faut saluer le travail de DJ Core et Scalp sur la BO de Taxi. Et je vous invite vraiment tous à le réécouter, parce que c'est produit aussi avec The Neptunes. Donc Pharrell Williams est coproducteur avec Core et Scalp en 2003 sur Taxi. Ce qui est assez incroyable maintenant quand on voit le parcours qu'a eu Pharrell. Et dedans, si vous écoutez, il y a 70% de R&B dans le projet. En tout cas, rap avec featuring R&B. Et on arrive à une autre ère, parce qu'on a abordé la question de la télé. Et donc l'ère 2005, que là vous avez tous suivi, est-ce que vous vous souvenez, là je vais demander aux intervenants si vous pouvez me citer les artistes de cette époque là à peu près, donc que vous avez vu via la télé.
Willy, Tragédie, tout ça. Moi je viens d'une ville, moi j'ai grandi dans la ville de Willy, on est pas du même quartier mais on est de la même ville, donc du coup la résonance de ce R&B là chez nous dans le 7-7 au Mets-sur-Seine, la communauté en plus laotienne, cambodgienne qui est là-bas, très R&Bisé, et aussi nous on vient du basket, la communauté du basket beaucoup plus d'affinité avec le R&B que la communauté, nous, qu'on voyait plus foot, etc. Il y a aussi un truc de culture. Très présent, ce R&B de cette époque-là. Tu vois. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le truc du R&B commercial de cette époque de Tragédie, etc. Ultra présent d'un coup, le R&B à la radio, en termes de vêtements, des vêtements surabusés, sa grand-mère, des trucs, des espèces de... Des baguilles, mon gars. C'est des trucs, des caleçons apparents chaque jour. Mais voilà, c'était une époque où on s'est tellement marré. Tous les codes étaient ultra exagérés. Et du coup, j'ai des bons souvenirs de ça.
Mais c'est important parce que j'ai l'impression que c'est là que ça tournait au truc de c'était devenu la risée d'un coup. Genre c'était cool et d'un coup c'est devenu la honte. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça a été très vite. Et
j'ai entendu Matt Houston.
Non mais ouais, mais du coup je trouve que c'est là où tu vois il y avait un problème. Je sais pas ce qui s'est passé.
Est-ce que alors ça amène à une question, alors que les artistes que vous avez cités arrivent à l'époque de l'ère de la télévision et des télécrochets, nouvelle star, pop star, donc avec Nadia, Amel Bent, Shaim, Matt Pokora, M Pokora même, parce qu'il a eu son procès avec Matt Houston en l'occurrence et il a perdu, donc M Pokora. Est-ce que pour vous, la télé a décrédibilisé le R&B ou pourquoi on a eu ce shift dont tu parles, ce shift en tout cas?
Ça a été parodié, moi j'ai l'impression. Je pense que c'est ça qui a fait que ça c'est parti en couille. C'est qu'il y a eu une sorte de parodie du R&B, c'est devenu un peu, je sais pas, une genre de blague quoi. Et ça l'a rendu moins sérieux.
Donc à partir du moment où on est sorti de l'underground, entre guillemets, donc vraiment des codes traditionnels du hip-hop et donc de la race music, je vais remettre ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, la dimension raciale, on a eu une décrédibilisation du R&B par les télécrochets.
Et il y a aussi une grosse problématique sur les deux époques que tu as citées qui est l'absence totale de femmes noires.
D'accord, super.
Et pour moi, on peut pas ne pas parler de ça quand on parle de R&B, de la disparition de la femme noire dans le R&B, à un moment donné de cette époque-là, tu vois.
Tu m'amènes un point qui est important. J'ai eu une discussion avec Sandrine, et cette femme, vous l'avez entendue, parce qu'elle est sur le refrain de « Mon papa à moi est un gangster » de Stommy Bugsy. Est-ce que vous vous souvenez de ce son ? Ouais, et ben avant de faire cette conférence, je l'ai eu au téléphone, qui est maintenant une productrice, qui est coach vocal. Et vous la connaissez pas, hein, cette Sandrine? Non. Ouais, parce qu'en fait, elle a demandé à l'époque, Tommy Bugsy était signé chez Sony, donc là on va rentrer dans un aspect un peu plus business, et elle a demandé à être citée en featuring. Mais ils ont refusé. Donc on arrive à une époque où, à part Wallen, qui était signée en maison de disque, en major, Sandrine était indépendante, a tourné avec le secteur A, elle était avec eux, faisait partie du groupe, mais ils l'ont mis en tant que choriste. Donc vous avez tous sa voix, vous avez tous son refrain, mais elle n'a jamais été créditée.
Et ça, continue ça. Ça continue de ouf, malheureusement. Ouais, on a du mal à se faire créditer encore aujourd'hui.
Je vois en tant que meuf.
Hein ? Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet, ça continue. C'est plus compliqué pour nous. C'est, je sais pas, il y a besoin de prouver plus de trucs. C'est vraiment, ça continue ça.
Ouais, donc au final, ce que tu amènes là-dessus, c'est que le R&B n'échappe pas aux discriminations des différents secteurs, en tout cas de la société, et encore plus dans la musique. Et pour rebondir là-dessus, Sandrine m'avait dit à l'époque qu'elle a vu des majors, elle a eu des rendez-vous qui étaient intéressés pour la signer. Et ils lui ont dit Sandrine est noire, hein, comme ça on situe. Et il disait que t'es un peu la Johnny Hallyday en jupe. Et c'est une réalité. Ouais. Et on lui a dit ça alors qu'elle sortait d'un disque d'or. Et elle a amené la question, donc pourquoi vous signez pas? Et ils lui ont dit parce qu'on ne sait pas travailler avec les voix noires. Et si vous vous souvenez, on a cité Karine, Wallen, Kaina Samet, Kenza Farah. Toutes ces personnes, en fait, font partie de l'immigration nord-africaine. Donc, est-ce qu'à un moment donné, en France, être issu de cette immigration-là est plus acceptable que d'être noir en France ? Est-ce qu'au final, c'est pas juste les personnes un peu marginalisées, mais c'est acceptable parce qu'elles passent bien à l'écran, qu'on peut les signer et avec des voix qui sont un peu différentes. Donc ça, c'est une très grosse problématique qu'on a encore aujourd'hui. Et je pense que et là, on vient.
Moi, j'ai une très grosse anecdote. Il y a genre, je sais pas, 6 ans, j'étais chez Sony du coup. Et à l'époque, j'avais un groupe que des blanches. Et le DA de l'époque, donc à l'époque, on n'écrivait pas. Et donc, il nous proposait des morceaux. Et je sais pas, ça vous parle, Awa Imani, ça vous dit un truc?
Oui, bien sûr.
Et je me rappelle, je l'écoutais. Et genre, on arrive en rendez-vous et tout. Et là, ils nous font écouter un son et je reconnais sa voix. Et je reconnais, et genre, ils venaient nous donner le son, en fait, qui était incroyable, avec sa voix qui était incroyable. Et je me rappelle de m'être dit à l'époque, putain, c'est injuste. Vraiment. Genre, il y avait un truc où je me disais, qu'est-ce que nous, on va aller chanter ce truc-là, alors qu'elle a tout, et tu vois. Donc, déjà, à l'époque, et c'était il y a longtemps, je m'étais fait la réflexion de, il y a un problème. Et donc, c'est très vieux.
Donc, ça, de 2017.
C'est un peu en train de changer. C'est pas,
ça évolue, mais c'est encore, ouais.
C'est en marge de changer. Mais c'est quand même un problème qui est là. Et moi, je me souviens bien de ça, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des auditions des télécrochets.
Ouais.
Dès que quelqu'un était trop soul, trop gospel, il y avait toujours un raclo là, qui disait « Oui, mais ah oui, ta voix trop gospel, voilà, mais mon frère, c'est ça qui est chaud !» Comment ça, c'est trop soul, trop gospel? Mais c'est là que c'est chaud, tu vois. Et c'était du coup, à la télé, tu regardes ça, tes kids, il y a un truc qui rentre, « Ah, trop gospel, ah, c'est pas bien !» Et ça a formaté plein de voix. Tu sais, maintenant, il y a limite un type de voix, The Voice. Tu vois, des gens qui chantent un peu tous de la même manière, ils chantent très bien. Mais du coup, d'avoir une sonorité soul, sonorité gospel, d'avoir un truc un peu rocailleux et tout, etc. Je me souviens des juges qui jugeaient ça comme si c'était un point négatif. Oui, mais ça fait trop, la chanteuse gospel, nanana. Et c'était souvent sur des femmes noires, tu vois. Du coup, moi, je sais que ces trucs-là, ça m'a travaillé.
Okay. D'ailleurs, en fait, quand tu disais tout à l'heure, justement, genre, qu'est-ce qui fait que il y ait ces chanteuses de télécrochet et que juste après elles, ce soit devenu archi has-been de faire du R&B, c'est peut-être justement lié à ce truc-là qui fait que par ce médium-là de la télé, en fait on a galvaudé en fait genre ce style du R&B, genre faut presque blanchiser les voix, tu vois, genre en gros enlever tout ce qui était soulful dedans pour qu'en fait ça devienne plus de la variété finalement, tu vois. En fait, on a mélangé un peu ce truc-là, enfin, transformé un truc R&B, justement. Après, genre, je pense pas que ce soit spécialement le fait que ça devient mainstream. C'est plus que le moment où ça devient mainstream, en fait, juste, on a perdu l'essence, tu vois. Ouais. Genre, en gros, c'est plus des chanteuses de R&B, vraiment, c'est plus genre des chanteuses de ouais, je sais pas, genre variété, pop ou quoi, mais genre, c'est autre chose, tu vois.
C'est ultra intéressant, ça me fait passer à la suite en fait, parce qu'on parlait du genre musical, là on était vraiment dans la question du style de musique, et on peut voir en fait des systématiques, des patterns au niveau des artistes sur leur premier album. Le premier album de chaque personne qu'on a cité, même Matt Pokora, était produit par Core Scalp. C'était un produit qui était ultra R&B, qui passait en radio sur Skyrock, qui était très bien fait. Et il fait de belles ventes sur ce projet-là, qui était ultra honorable. Et ensuite, il passe dans un délire un peu plus variété. Et là, il passe dans la troupe de Goldman. Et là, on passe sur du platine. On passe plus sur des disques d'or. Et c'était le même cas de Shime. Son premier album a été produit par Camaro, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec ce côté un peu parodique dont tu parlais, qui peut rentrer là-dedans, mais a fait un double platine sur son premier projet, puis elle continue et elle se dit bon bah on va arrêter ça, et derrière on rentre vraiment dans des plus gros chiffres. Dès qu'on passe dans un côté variété française, avec comme je disais la troupe de Goldman, donc les Charles Aznavour et toutes les grandes stars de la variété française, on a une évolution au niveau des ventes. Donc ça amène à une autre question on peut y répondre là ou pas forcément, mais est-ce que alors on soutient ce style musical, nous en tout cas en tant qu'auditeur?
Bah, en fait, moi ce que je trouve que ça montre particulièrement, c'est que dans cette époque-là, qui était pré-internet, pré-réseaux sociaux, tu vois, où en fait finalement la consommation culturelle en France, elle se faisait beaucoup par la télé, tu vois, genre, enfin, en gros, genre, moi quand je parle à mes grands-parents, qui me parle d'un artiste qu'on voit sur TF1 ou sur France 2 et tout, je suis en mode je sais pas qui c'est, tu vois, parce qu'en gros il y a une fracture générationnelle, et eux de même, genre si je leur dis un artiste comme Luigi, il y a tant de personnes qui l'écoutent, peut-être beaucoup plus que la personne que tu vois sur TF1, mais en fait genre on s'adresse plutôt au même public. Et en gros du coup ce que je veux dire, c'est que là le fait justement que tout passe par la télé à cette époque-là, ça faisait que genre du coup on s'adressait à un certain public, tu vois. Alors que là aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui on peut se permettre justement de développer un R&B un peu plus authentique, parce qu'il y a des formes de médias qui sont alternatifs, tu vois, genre qui ne dépendent plus seulement des chaînes de télé, des mêmes personnes, tu vois.
Ouais, totalement. Et ça amène à une question, on reviendra juste après sur la question des médias et des différents canaux qui existent maintenant à l'ère du streaming. Et pour vous, alors, vu qu'on a vu un peu toute cette histoire, en tout cas du R&B et ses complexités, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore tabou pour vous de se catégoriser en tant qu'artiste? On en a plein ici. Et aussi, peut-être sur une partie un peu plus label, est-ce que c'est tabou de dire qu'on fait du R&B en France? Vous parlez de R&B en tout cas.
Ouais, non, aujourd'hui, il n'y a pas de... En vrai, on peut tout faire, parce qu'en vrai, il y a des canaux de distribution qui sont tellement ouverts. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu sur l'ère de l'hybride, où même beaucoup d'artistes qui sortent des albums, il y a souvent, des fois, ils glissent un petit son en R&B, comme ça, dans le projet, ça fait du bien. Après, il faut se dire que c'est... Par exemple, sur Spotify, la première playlist R&B, elle est apparue il y a 2 ans.
Tu vois ? Ouais. C'est extrêmement tard.
Déjà, en fait, par exemple, si je parle d'une artiste que j'ai chez moi qui s'appelle Nae, au début, quand on a commencé à sortir ses sons, ils m'ont dit « Ah, je ne sais pas dans quelle playlist ça va aller, c'est trop pop urbaine, mais en même temps, ça peut faire quand même de la variété française. » Et nous, on leur disait « Peut-être R&B ?» Ils nous ont dit « Non, mais on ne sait pas où la placer, c'est compliqué. » Et il y a une playlist qui est apparue du coup, il y a 2 ans, qui a 150 000 followers sur Spotify, qui s'appelle « Rap and Bae », je crois. Et en gros, je me dis que depuis 2 ans, alors que ce style est établi et reconnu en France, ils ont été obligés de créer une playlist parce qu'ils ne savaient pas du tout où mettre les artistes comme ça. Donc je pense que ça évolue. Et aujourd'hui aussi, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut diffuser sa musique, donc tout le monde peut vraiment représenter ce registre. Mais les médias généralistes, tout ça, ça reste quand même un peu fermé. On le voit.
Okay.
Est-ce qu'Aya Nakamura, aujourd'hui, on peut en parler? Est-ce qu'elle fait du R&B? En tout cas, elle prend les codes en termes d'image.
Totalement.
On peut le voir sur Baby, sur son clip, c'est clairement les codes. Après, est-ce que ça l'aide à évoluer, à être plus visible et avoir moins de critiques? Je ne suis pas sûr.
D'accord.
Mais déjà, tu vas à la Fnac, il n'y a pas de rayon vinyle R&B. Ouais. Ça n'existe pas alors. Un souci. Je demandais la dernière fois et je voulais je ne sais plus quel truc. Et le mec me montre le rayon soul, tu vois. Je dis, non, c'est différent. Ça n'existe même pas. C'est genre... Non, il y a un souci.
Okay.
qui a pas mal aidé, je trouve, à réidentifier le R&B et à le rendre populaire, c'est l'arrivée du trap soul avec les Bryson Tiller, Black, etc. Ça a repopularisé quand même le genre. Je pense que même si ce que je dis se passe aux États-Unis, ça se répercute direct sur nous, tu vois. Et du coup, il y a cette espèce de pan de R&B plus produit, autotuné, qui emprunte des codes au opéra, à la trap, en termes de rythmique, des 808, des programmations et tout trap, avec des flows R&B qui viennent pas forcément de chanteurs R&B à la base, mais qui rentrent dans des flows comme ça. Et après, le succès de Drake, tu vois, parce ouais. que le fait que Drake, c'est quand même l'artiste de ces 10 dernières années, et il a popularisé le truc. Quand l'artiste numéro 1, en tout cas en termes de vente et tout, après en termes de goût, chacun son truc, mais en termes de vente, etc., la moitié de son répertoire est R&B, ça a forcément une répercussion sur le reste du marché, tu vois. Du coup, le R&B est largement moins impopulaire aujourd'hui, tu vois. Tu as des artistes de R&B qui émergent de partout, même très alternatifs, tu vois, jusqu'à des trucs très mainstream, tu vois, de Aya qui emprunte des codes au R&B. Il y a des mecs comme Sonny Rave ou des gars comme ça qui arrivent avec des R&B super bien produits à la baraque, tu vois.
Ou un artiste comme Nov, avec qui tu as collaboré, ouais. qui est efficace dans la neo-soul et le R&B de manière générale depuis près de 10 ans, maintenant même plus, je crois. Hein, ses premiers projets datent de fin 2008, quelque chose comme ça.
Quand il est arrivé comme un sauveur pour beaucoup. Hein.
Ouais, c'était Sans Dessus de Soul, je crois, que son premier, ouais. Premier projet, qui d'ailleurs sort un projet récemment, fait une promo comme ça, gratuite, mais c'est cool pour un artiste qu'on apprécie beaucoup. Je pense que ça a été une ref pour beaucoup d'artistes ici. Et derrière, là, on a amené un problème structurel. Donc, on disait que la FNAC n'avait pas de rayon. On a abordé la question des playlists, donc la question d'identification. Maintenant qu'on a vu sur cette conférence que, au final, le R&B englobe tous les mouvements de musique faits par les Afro-Américains aux États-Unis, on peut même répondre officiellement, entre guillemets, à Aya Nakamura, oui, fait du R&B. C'est juste que c'est une forme nouvelle et ça amène aux nouvelles formes de R&B. Et est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'un French R&B aujourd'hui ?
Bah, je pense qu'il reste à faire, tu vois. Je pense qu'il est en cours de construction, tu vois. Je sais pas. Enfin bon, en tout cas, moi, c'est ce que je fais comme musique, je trouve. Donc, genre, je me dis, je vais essayer de poser des jalons qui vont peut-être être considérés comme du R&B français. Toi aussi. En vrai, tu vois, genre, je trouve que Enchantée Julia, ce qu'elle fait, c'est ça aussi, parce qu'elle se Elle, en vrai, ses rêves, c'est beaucoup justement le R&B dans le hip-hop des années 2000. C'est beaucoup la néo-soul de Erykah Badu. Donc, en vrai, tu vois, genre, c'est quand même ce genre de rêve-là, tu vois. Moi, à titre personnel, genre, ça va plutôt être des trucs actuels, justement, de chez OVO, de Party Next Door, Division. Toute l'autre scène aussi alternative de Toronto, donc Daniel César... Charlotte Day Wilson, tu vois, genre cela, ou alors les gens qui sont plutôt dans l'entourage genre de Tyler, The Creator, donc avec Seed, avec Frank Ocean, tout ça, ou encore les Givey On, Brent Faiyaz, tu vois. Et ça, où en fait, ça va un plus presque du rap. En fait, genre, ce qui est intéressant avec ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est que déjà, chez Drake, il y a le fait que ce soit un rappeur de base qui se mette à chanter, et en vrai, il y a eu ce twist dans les années 2010 où genre d'un coup... les hommes pouvaient chanter, genre c'était ok, tu vois. Genre c'était plus un problème d'identification masculine, genre tu vois, genre d'être un rappeur et de chanter. Et en fait, genre si tu prends quelqu'un, du coup comme Drake, il a commencé par le rap, ensuite il a amené le chant dans cette musique-là. L'exemple de Brent Faiyaz aussi, c'était un mec qui faisait du rap à la base, cloud rap je pense, et petit à petit il s'est mis à chanter, et genre il chante comme un pélo de Jagged Edge, tu vois, enfin genre c'est un truc de ouf. Et tu prends un mec comme Frank Ocean aussi, en vrai de base il rappe, et ensuite il est venu au chant. Bon, après peut-être qu'il a fait un peu les deux quand il était plus jeune ou quoi, mais genre dans ses sons il y a vraiment les deux, et en vrai le rap c'est quand même le style qui défonce tous les autres en termes de popularité, et par lequel il me semble que du coup genre les autres sous-genres peuvent émerger, tu vois, et devenir big. Tu prends du coup genre un Brent Faiyaz aujourd'hui, un Givey On, via justement leur ils font des sons avec Justin Bieber par exemple, ça devient énorme. Et une artiste comme SZA, je crois que là depuis qu'elle a sorti son album genre sur Spotify, elle est dans les 10 premiers plus écoutés du monde, tu vois. Alors qu'en vrai t'écoutes SZA, c'est pas si pop quoi, genre c'est très R&B. Comment?
C'est numéro un Billboard, c'est Zay.
C'est énorme.
Et l'exception française, genre nous ce qu'on a ici, pour compléter ce que disait Oscar, c'est qu'il y a vraiment ce truc là d'un R&B comme celui que Oscar fait, Julia et tout ça, où il y a ce truc de la plume française qui est ramenée dans un R&B. Parce que Oscar ne fait pas que chanter, qu'il met des grands doggy cheveux, tu vois. Et du coup, ils amènent leur truc de leur plume française, leur poésie, leur manière de. Il y a pour moi le truc français qui vient de la French Touch, d'un truc funk. On a un truc funk français. Là, tu vois, avec le taf de Headbanger ou d'autres, de Cassius, tout ça. Dans la funk, il y a de la soul, il y a du R&B, etc. On a ce truc qui est pour moi qui est français. La French, le funk français existe. Et ce que le métissage français a amené, la culture afro, qui est aujourd'hui, en fait, nous on est au carrefour de nos influences américaines et de nos influences africaines venant de notre immigration. Du coup, il se crée cette espèce de mélange. C'est pour ça que tu étais dans le questionnement, est-ce que Aya c'est du R&B ou pas? Comme Taïk ou d'autres, ils sont à la croisée des mondes entre la musique africaine et les inspirations R&B qui crée un truc qui pour moi est français. Tu vois, ce mélange de R&B et de musique africaine, c'est un truc qui se crée en France, ça. Tu vois, même s'il y a toute la vague Naija, ghanéenne, qui est plus sur Londres, les Anglais ont ce mélange de R&B avec la culture Naija, ghanéenne, jamaïcaine. Mais nous, on a ce truc français avec la musique congolaise, Khmer, etc., qui va se mélanger à nos influences, et ça vient de notre immigration. Je pense que ça, c'est français.
Bah, moi, je suis totalement d'accord de toute façon avec ce que tu dis. Tu parlais d'électro, et là, je vais faire une passe à Ella. Tes premiers morceaux, en tout cas, tes premiers projets, ou ce que tu as vraiment sorti, avait une grosse inspi électro. Est-ce que pour toi, c'est un côté influence française? Est-ce que ça définit ta nouvelle forme, en tout cas, de French R&B?
Franchement, je ne saurais pas dire, parce qu'en fait, c'est pour ça que ma musique, j'ai du mal même moi à la définir, parce que je tombe vraiment amoureuse des prods, et je ne réfléchis pas trop à ce que ça va être, et à, tu vois, dans quelle catégorie je me mets. Donc j'ai vachement de mal à répondre à ça, et je ne saurais pas, parce que juste, c'est ça la musique aussi. Peut-être que c'est ça le problème, c'est de vouloir trop vouloir le mettre quelque part absolument, tu vois, alors qu'en vrai, c'est de la musique.
C'est très français, hein, en fait. Il n'y a qu'en France où on met des étiquettes partout. Aujourd'hui, je pense que... C'est ce qu'on dit, c'est aux États-Unis, c'est l'hybride, ça expérimente tout le temps. Et en France, dès que ça expérimente, soit on dit que c'est trop spé, mais d'un autre côté, si le truc devient mainstream, on va dire non, c'est normal. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas dans où se placer et on ne sait pas vraiment même ce que ça va être demain, le nouveau registre qui va péter en France. Mais on passe de registre en registre, il n'y a pas vraiment d'expérimentation et souvent, ça fait des secteurs qui sont bouchés, comme le rap l'est, comme aujourd'hui la trap l'est, comme voilà. Donc. Je pense que c'est là où le R&B, il peut se passer quelque chose, mais il va falloir que ce soit l'hybride pour qu'il y ait une artiste ou un artiste qui sorte du lot. Et à ce moment-là, peut-être que ça deviendra normal et on se dira, ok, c'est du R&B, mais au final, peut-être pas.
Bah, de toute façon, comme on a vu, en fait, historiquement, à savoir que le R&B a pris des formes différentes au travers du temps. Je fais un petit récap, comme on disait, au travers du rock, du boogie-woogie, puis après de la soul, puis après de la funk, puis après du hip-hop, pour avoir sa dernière forme finale, en tout cas pour nous actuels. On ne sait pas si dans 20 ans, ça aura une forme différente. Mais on a un truc un peu unique en France, et A2 a commencé à vraiment l'aborder, c'est la question de la diaspora. En tant que diaspora, on a créé des moves qui n'existent qu'en France. L'afro-love que Taïk décrit, c'est quelque chose qui se passe que chez nous. Et merci à MHD, et je crois que c'était Rob White, le producteur qui avait fait tous les afro-trap, qui a influencé le monde entier. On a pu voir French Montana faire des collabs avec des artistes Kinf ou Wizkid et compagnie qui ont développé une afro-trap plus globale maintenant et qui ont repris, mais l'origine vient de la France, très, très honnêtement. Et en 2003, ça existait déjà. On a parlé de Taxi tout à l'heure, mais il y a eu la compile Ryan B. Fever. Et c'est pour ça que je disais que Core et Scalp ont été des acteurs particulièrement importants qu'on le veuille ou non, même vous en tant qu'artiste, je pense que vous avez pu être influencé par, par leur musique. Tout à l'heure, on était dans les loges et j'ai eu le droit à Ella Oscar qui m'ont fredonné peut-être tous les bangers des années 2000. Et c'était assez cool. Et cette époque-là, c'est donc la diaspora nord-africaine qui était à l'honneur et pour maintenant avoir un retour vers un côté plus ouest-africain en l'occurrence, avec des artistes aussi non plus Afrique centrale comme Maître Gims qui aborde aussi de la mélo ou d'adjou, qui reprennent des patterns rythmiques totalement congolais. On prend le cas des kora, donc instruments de musique plus ouest-africains, qui sont utilisés. Donc ouais, on a un French R&B ici. Le French R&B, il se retranscrit d'une part par l'utilisation de l'électro via la génération Headbanger avec Sébastien, DJ Mehdi, Cassius, mais aussi via la diaspora pour créer un format qui est unique et qui tend en fait à se développer. Et maintenant, vu qu'il nous reste à peu près 25 minutes de podcast, tout à l'heure tu as parlé des médias, Oscar. Je pense que c'est une place ultra important et aussi des canaux que tu disais Théo, des nouvelles formes. Est-ce que vous voyez une évolution dans la façon dont vous diffusez votre musique, dans la façon dont elle est communiquée et aussi de manière générale la réceptivité des médias par rapport au R&B? Ça bouge des têtes.
Elle est pas facile, la question.
Elle est pas facile, je sais qu'elle est relou.
Déjà, il n'y a pas beaucoup de médias spécialisés dans le R&B en vrai.
Et on peut parler, il y en a un spécialement, je pense, sur les réseaux sociaux qui s'appelle Chimia, qui fait vraiment... Tu vois ce que c'est, Oscar? Ouais, ouais, ces choses qu'ils font. Et qui sont plus orientés quand même sur les US. Mais c'est un média qui est exclusivement R&B. À la radio, peut-être, alors...
Il y a Camino qui sont des kiffeurs, ouais, de R&B.
Exactement.
C'est pas un média proprement dit, mais ils font un gros taf sur le R&B, je trouve, Camino... des grands kiffeurs et ils envoient toujours de la force à beaucoup d'artistes R&B, donc gros shout-out à eux pour ça.
Bah en vrai, ouais, c'est presque plus des comptes Instagram qui vont plus être dans du lifestyle, en fait. Tu parlais de Camino, y a Iconic aussi. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, c'est deux qui me donnent beaucoup de force et qui, genre, tu vois, genre qui parlent de ce que je fais. Donc en vrai, c'est même pas forcément des trucs spécialisés. Après, justement, quand on parlait mélange des genres et tout avec le rap et tout, il y a quelques médias rap aussi qui, moi, vont relayer un truc que je fais parce que, genre, j'ai fait un son avec Luigi. Du coup, genre, on me fait passer par le truc. Mais en vrai, ouais, sinon, il n'y a pas... En fait, genre, je pense que ce qui est nice aujourd'hui, c'est qu'on peut... On peut s'adresser directement à des gens qui ont leurs propres médias, tu vois, et genre... Mais bon, après, c'est genre un taf à part entière.
Oui.
Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, pour l'instant, j'attends pas spécialement d'avoir un truc sur les Inrock ou sur Combini ou quoi, tu vois, parce que genre, je sais pas trop si je suis leur cœur de cible. Et je me dis plutôt, je vais construire un truc un peu plus proche de moi, tu vois, et genre multiplier genre les petites interventions, ouais. et genre plein de, tu vois, genre plein de médias qui sont plus petits, mais qui ensemble vont peut-être, tu vois, genre générer quelque chose.
C'est important d'avoir ce retour-là aussi pour les artistes R&B, si on a dans la salle, et aussi qui vont écouter ce podcast, pour avoir des nouvelles voies de développement, comme on disait tout à l'heure, en fait, via les canaux de la télé. Pendant une époque, ça nous a décrédibilisé. Et maintenant, toi, tu as une forme, tu commences à bien évoluer aussi dans ta musique, et c'est une façon de faire. Je pense que c'est bien de toucher directement vos auditeurs. Il y a aussi des scènes musicales, il y en a très peu, et là, je vais faire un gros shout-out à Théo, avec qui on a fondé les Crimson Sessions, qui sont un événement mensuel néo-soul à Paris. Je vois des gens qui hochent la tête, j'espère. Je pense que je les ai peut-être vus aux Crimson Sessions. Et on a essayé en fait de créer un espace pour les artistes. Et aussi, on essaye d'inviter un maximum de médias pour donner un maximum de force au milieu. Donc ça existe et ça commence à se développer. Est-ce que, moi j'ai une petite question là pour Théo. Est-ce que toi, quand tu appréhendes le travail d'une artiste, par exemple, comme Naé, qui est ici présent, en termes de stratégie, plus ou moins, au niveau de la diffusion, est-ce que tu l'abordes de la même façon qu'un rappeur ou pas?
En vrai, non. Non, parce que si je fais le comparatif avec une autre artiste que j'ai, qui malheureusement, j'adore cette artiste, qui s'appelle Mademoiselle Lou, qui vient de faire un feat avec Booba, au final, est-ce que dans le temps, ça va l'aider à sortir des canaux de rap, je sais pas. Donc en fait, c'est Aujourd'hui, c'est ça qui est un peu le problème. C'est on commence enfin, avec les éditos pour les playlists, à trouver vraiment une cible et une vision. Mais avec les médias, c'est toujours un peu ouvert. Nous, on joue beaucoup avec Naé parce que, en fait, on joue sur l'aspect qu'elle est très forte en live. Donc, c'est un peu notre... voilà, on se dit, faut qu'on la voie, faut qu'elle fasse des lives et tout. Mais après, est-ce qu'il y a des médias qui... Voilà, en fait, le problème avec Naé, c'est qu'elle a bossé avec Nekfeu. Donc ça, c'est ouais. Cool. Mais là, on a sorti un EP l'année dernière. Et je pense que dans tous les médias, ils ont tous parlé de ça. Et d'accord. Aujourd'hui, est-ce que... Non, c'est pas ça le problème. Ouais, c'est... faut que ça vende.
Attends, mais il y a un autre truc aussi. C'est genre, ça veut dire que si tu fais pas un feat avec un rappeur, t'existes pas.
On récap, vu qu'elle avait pas de micro à Naé et ici. Donc, selon elle, la problématique est une question d'offre et de demande. Tant qu'en fait les radios et les médias ne communiqueront pas, ben merci à deux. Si, vas-y, enregistre, c'est cool. C'est safe space, envoie. C'est important.
Parler de moi, ça me stresse qu'il parle de moi en mon nom, genre que je suis en face de lui, genre ouais, dans cool. Un repas de famille, genre bah non, en fait, laisse-moi
très
parler.
Cool. Très cool.
Non, mais
très,
je
très
pense cool. Que le problème, c'est l'offre et la demande en France, puisqu'on fait beaucoup de parallèles entre les États-Unis et la France. Déjà, je pense que la base, c'est que l'histoire afro-américaine n'est pas la même histoire qu'en France, et que la diaspora en France, c'est deux choses différentes. Et moi, pour être allé très régulièrement à Toronto ou à Montréal ou très récemment à New York, t'allumes ta radio, il y a genre 15 000. Station de radio qui passe du R&B et c'est normal, genre c'est normal là-bas, c'est normalisé le R&B, ça fait partie d'un grand courant musical. Ici le R&B c'est considéré comme un truc genre de niche, un truc genre has-been, et en fait le problème c'est une histoire, encore une fois parce qu'on parle de l'industrie, d'offres et de demandes. Tant que les radios continueront de dire ah non désolé moi je vais pas suivre ton artiste, je vais pas la faire rentrer en playlist parce que bah vas-y on sait que ça rapportera pas d'argent le R&B, ou tant que les médias écrits diront pareil, genre bah non on va pas faire un article sur cette nana parce qu'on sait très bien que le R&B ça va pas marcher, bah en fait la demande, en l'occurrence l'auditeur qui va certainement se fier à ce qu'on lui donne, si on lui donne à manger que de la pop et du rap et des courants musicaux qui n'ont rien à voir avec le R&B, bah forcément c'est un cercle vicieux et c'est interminable. Nous, notre responsabilité en tant qu'artiste, je pense, c'est de continuer d'être déter, de s'écouter, de se dire bah, on va continuer de proposer du R&B, on va continuer de proposer notre sauce, et à un moment donné faut prier les gars, quoi, faut prier le Seigneur pour qu'à un moment donné les gens se réveillent et se disent ah mais c'est stylé en fait le R&B nouveau, le R&B français, ça c'est lourd. Et on a besoin pour ça, je pense, de nos auditeurs. Chaque fanbase aussi fait son taf, fait le travail. Et je pense que cette cohésion sociale, elle nous manque aussi, nous, en tant qu'artistes. On devrait aussi plus être solidaires et créer, en fait, des environnements avec notre propre médium de communication où, en fait, toutes nos fanbases pourraient être potes, en fait, et se dire, ah ben, en fait, toute cette grosse fanbase va peut-être créer, justement, un média, ce média qui nous manque aujourd'hui. Et les radios, pareil, elles vont se dire, ah, mais en fait, ils sont en train de se faire de l'oseille sur nos côtes. Let's go, on va passer le R&B en radio, tu vois. Moi, je pense que c'est vraiment une question d'oseille, c'est sale, hein, c'est dégueulasse en vrai l'industrie, on se le dise. Hein. Mais moi, le problème, c'est pas Nekfeu. C'est génial ce qui s'est passé dans ma carrière, c'est chambé, je suis très reconnaissante. J'en ai d'ailleurs pas parlé, moi, personnellement, dans les médias, parce que je voulais pas surfer là-dessus. Et je pense pas que ce soit ça le problème, parce qu'on m'en a parlé, mais ils ont vite capté que je voulais pas aborder ouais. Le truc. Le problème, c'est la visibilité. On nous donne pas cette visibilité, donc faut aller la chercher, ça prend plus de temps. Ouais. Mais moi, je suis hyper optimiste et je sais qu'on va y arriver, et avec ouais. Des vibes et tout ça, on va y arriver là.
Après, on peut comparer un peu à ce qui se passe avec la Next Gen en France, où on voit que, après, c'est une communauté qui est centrée sur un réseau social qui est Twitter, mais quand on voit l'effervescence qui se passe avec ce registre-là, on sait que tout est faisable. Maintenant, c'est surtout, faut juste qu'ils s'intéressent et faut aussi sortir un peu des codes et essayer vraiment de se projeter et de se dire, voilà, c'est sûr qu'il y a un marché. Maintenant, c'est comment ça va se développer, comment les médias vont ouvrir les yeux. Et il faut qu'il y ait des nouveaux médias aussi, il faut qu'il y ait des choses qui se passent.
Mais pour compléter ce que disait Naé, c'est vrai que ce qui amène les artistes R&B en avant, enfin moi, c'est comme ça que j'ai découvert Oscar, c'est comme ça que j'ai découvert plein d'autres gens, c'est via des artistes. Les artistes sont plus forts que les médias pour faire écouter des gens. Donc du coup, c'est pas totalement normal que pour pouvoir découvrir des nouvelles personnes, bah, tu suis un artiste qui t'en fait découvrir un autre et que les médias, ils aient pas pris les devants sur un truc comme ça, tu vois.
Totalement.
Du coup, heureusement que les artistes français, je trouve, en ce moment, sont un peu moins à regarder leur petit nombril et plus à essayer de kiffer.
mélanger, pas forcément regardant le niveau de stream et lui stream un temps et ça va m'apporter truc et tout, mes couilles, on s'en bat la race. C'est vraiment essayer de kiffer, faire de la musique. Ah, lui, j'adore ce qu'il fait, venez, on y va, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je trouve qu'on revient un peu à un truc de kiff. Enfin, en tout cas, moi, maintenant que j'ai un pied du côté producteur à côté de mon côté artiste, je me rends compte, j'ai l'impression que ça s'est détendu un peu. On n'y est pas encore. Pareil, je trouve qu'il y a encore du travail sur tout. Mais c'est ça le problème, c'est que pour découvrir un artiste, il faut suivre des artistes. Okay. Et les médias, je les trouve un petit peu à la ramasse, en tout cas sur le R&B, vraiment.
Ouais, il n'y a pas le côté prescripteur.
Ouais,
en fait.
Ils sont plus prescripteurs, les médias.
C'est plus genre, ils vont aller chercher genre une base dont ils savent déjà qu'ils vont kiffer tel truc. Donc, tu n'as plus le rôle, oui, c'est ça, ouais, de prescripteur.
C'est cool, vous avez apporté des solutions et aussi une vision pour l'avenir, en tout cas du R&B, que ça passe, comme disait Naé, sur la question du plus structurel au niveau des radios, au niveau des majors, au niveau des médias, au niveau peut-être de communautés. Où là, au final, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire se réunir entre fans de R&B, entre artistes, entre producteurs. Moi, ça, on va partir en tant qu'RP du côté de label, et c'est pour ça que pour cette conférence, je voulais essayer de représenter un peu tous les corps de métier. Et ça a été assez difficile que vous le sachiez, parce que dans les radios, eh ben, y a pas beaucoup de monde. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui s'appelle Laurent, qui est chez Génération, qui a eu l'une des premières émissions R&B chez Génération, et qui lui est un fanatique. Mais est-ce que maintenant, on a vraiment des grandes parts de R&B au quotidien? Non. Et surtout, on n'a pas les artistes de la scène émergente en radio. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que demain, on roule en voiture, vous allez écouter Ado FM, qui est une super radio et qui est géniale dans ce qu'ils ont proposé, qui ont été un acteur major du R&B, mais ça surfe encore sur Corneille. Et je trouve ça cool pour Corneille, mais qu'en est-il d'Ella, qu'en est-il d'Oscar, qu'en est-il de Naé et de tous les artistes qu'on a invités à la Crimson? Je pense à des gens qui sont sur des moves qui sont ultra émergents et qui n'ont rien à envier avec les États-Unis. Je pense à Biazuka, par exemple, qui est une artiste qui est ultra talentueuse et qui va mêler un côté un peu à la Rosalia dans ce qu'elle fait. Et nous, on le voit dans les Crimson avec mon associé Théo, on fait sold out sur des concerts. Et il y a du monde, je vois des jeunes. Je vois des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont un côté un peu revival et qui kiffent la nouvelle vibes. Et c'est important de le faire et c'est important de continuer dans ce qu'on propose. Et c'est sur ça qu'on va conclure. Donc là, la dernière question en fait que j'avais pour nous tous, c'était l'avenir du R&B. Comment va venir, que va devenir de ce genre en France? Et vous êtes en fait tous ici pour écrire la future page de l'histoire. Vous avez l'air d'être tous super enthousiastes. Et en fait, bah, je vous invite à juste nous contacter, aller venir à nos concerts et à monter des structures, à s'aider. Et comme on disait tout à l'heure, les artistes sont les plus grands vecteurs dans le R&B des autres artistes. Donc on est la plus grande communauté R&B.
Et ça fait plaisir de voir autant de gens qui viennent parler de R&B parce qu'on faisait le même genre de truc quelques années en arrière, on était 15.
Exactement. Donc aujourd'hui, je vous dis, je suis super ému de vous voir tous ici pour ce genre musical. Ça nous fait énormément plaisir. Donc j'aimerais remercier ADH. Et là, Théo, Oscar, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier La Place pour la L2P Convention, avec Apolline qui m'a aidé pour monter ce projet, et Antoine qui est juste à côté, qui vient d'arriver dans la salle. Et merci à tous, et je vous prie de...
Du bruit pour Nassim, hein, s'il vous plaît. C'est,
merci beaucoup.
Bon temps.
La Place. L2P Convention. En podcast, rencontres, conférences et talks par La Place.